Bonsoir à tous.
L'essentiel ce mardi, c'est le départ d'un vieux président qui a eu du mal à se décider.
Exit Robert Mugabe, le plus ancien et le plus vieux président du monde. Le Zimbabwe s'en débarrasse. Il était au pouvoir depuis 1980. Il a démissionné et c'est tout le pays qui se libère de 37 ans d'oppression. Nous serons là-bas dans un instant. Le glyphosate, cancérogène ou pas? La dernière étude en date affirme que non, alors que l'Europe se divise sur son interdiction. Dans ce journal également, Édouard Philippe interdit l'écriture inclusive à ses ministres. Et puis, il n'y a pas que le pétrus dans la vie. LVMH s'offre le plus prestigieux vignoble américain et ses vins parmi les meilleurs au monde.
À 18h15, dans Un jour dans le monde, alerter les bébés, on s'engouffre dans ce débat qui grimpe depuis la publication de l'appel des 15 000 chercheurs sur le climat. Et s'il fallait jouer sur la démographie pour sauver la planète? Nous sommes aussi en Palestine ce soir, dans un village qui cherche à se développer, mais vous verrez que les freins sont deux logiques qui s'affrontent. Je vous laisse découvrir ça dans un instant. 19h20, le téléphone sonne avec des maires de grandes, moyennes et petites communes ce soir, alors que s'est ouvert le 100e congrès des maires de France. Moins d'argent, est-ce que ça veut dire moins de services publics? Est-ce que les communes sont exsangues et quelles conséquences pour nous? 01 45 24 7000 et franceinter.fr.
France Inter. 37 ans au pouvoir et cette fois ça semble bien terminé pour Mugabe au Zimbabwe. À 93 ans, le plus vieux chef d'État du monde a démissionné selon le président de l'Assemblée nationale. Épilogue d'un coup de force de l'armée il y a une semaine qui met fin à 37 ans de règne d'une main de fer. Valentine Rioux est à Harare pour France Inter.
Les parlementaires zimbabwéens étaient réunis en pleine session extraordinaire pour examiner une proposition de motion de censure contre Robert Mugabe quand soudain des cris de joie ont explosé à l'intérieur de la salle. Le président de l'Assemblée prend la parole, une lettre à la main. C'est la démission de Robert Mugabe qu'il annonce. Après deux jours de torpeur, c'est l'explosion de joie dans la capitale Harare. Les parlementaires et ceux qui assistaient à cette session extraordinaire se précipitent hors de la salle comme un seul homme. Le président a fini par jeter l'éponge alors qu'on pensait être engagé dans un long processus légal. À la sortie, les députés ont sur le visage un air incrédule et affichent de larges sourires pendant que la foule se disperse en hurlant. La clameur a maintenant gagné toute la ville et toute la population qui attendait ce moment depuis maintenant une semaine. Robert Mugabe se sera accroché longtemps au pouvoir qui lui échappait. Dimanche, lors d'une allocution à la télévision, le président avait finalement refusé d'annoncer sa démission alors qu'il avait été exclu de son parti le jour même. Pour les Zimbabwéens, c'est l'espoir d'une nouvelle ère après 37 ans de règne sans partage du président Mugabe.
Valentine Rioux a Harare, le Zimbabwe, ancienne Rhodésie, colonie britannique sans Mugabe. L'opportunité est là de se forger une nouvelle voie libre de l'oppression, a réagi la première ministre britannique Theresa May.
En Argentine, on est à 6 jours sans aucune nouvelle de ce sous-marin San Juan.
Et la marine argentine continue à chercher au large de la Patagonie les 44 membres d'équipage. S'ils sont encore en vie, n'en ont plus que pour quelques jours. Les experts redoutent que le sous-marin soit bloqué au fond de l'eau. Il y a un protocole dans ce genre de situation d'urgence. Et c'est Bertrand Dumoulin, ancien commandant sous-marinier de l'armée française, qui nous l'explique.
La façon de communiquer avec l'extérieur, c'est d'envoyer dans l'eau des signaux acoustiques, soit par un téléphone sous-marin, soit en tapant contre la coque. Et le rôle justement du commandant et de l'équipage, c'est de tenir, que d'abord la coque soit intègre, qu'il n'y ait pas d'entrée d'eau. Ensuite, c'est que l'atmosphère soit respirable. Pour ça, il y a des équipements qui purifient l'air du gaz carbonique. Ce sont des chandelles à oxygène, des équipements de secours. Vous devez lutter contre le froid, vous avez les vivres, vous avez l'eau. Il faut s'organiser pour durer et on touche là du doigt le fait que le métier de sous-marinier est un métier difficile dans un environnement avec beaucoup d'équipements sensibles, concentrés dans un endroit très restreint, de l'huile, de l'air sous pression, du gazole. Toute la difficulté de ce métier consiste à travailler en situation normale dans un environnement à risque et dans une situation de détresse. Il y a toute une organisation et il y a bien sûr le facteur psychologique qui est important.
Bertrand Desmoulins, ancien commandant sous marinier, joint par Olivier Poujade, toujours à l'étranger. Un attentat suicide a fait 50 morts dans une mosquée du nord-est du Nigeria, attentat attribué à Boko Haram, pendant qu'en Irak, un camion piégé a tué 23 personnes dans le nord, le jour où le premier ministre irakien déclare que le pays a chassé Daesh. Ont-ils joué un rôle d'intermédiaire dans les attentats de janvier 2015? 3 personnes sont en garde à vue qui auraient pu rentrer dans le circuit de la fourniture d'armes aux frères Kouachi et à Koulibaly. Ils ont tué, je vous le rappelle, 12 personnes. personne à Charlie Hebdo et dans une épicerie cachère.
Il est 18h05. Avant, seuls les agriculteurs le connaissaient.
Maintenant, nul n'ignore plus ce qu'est le glyphosate, un puissant herbicide de Monsanto, cancérogène probable pour l'homme, selon le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Les Européens s'étripent depuis des mois sans parvenir à décider dans combien de temps ils vont l'interdire. Et voilà qu'une étude nous apprend aujourd'hui que ce même glyphosate n'augmente pas les risques de cancer. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
On ne sait plus très bien où on en est. Cette dernière étude, apparemment, elle est sérieuse, comme la revue scientifique dans laquelle elle paraît.
Oui, il s'agit effectivement du journal du National Cancer Institute, un travail financé par des deniers publics et réalisé par des chercheurs qui n'ont pas de conflit d'intérêts. Voilà pour le contexte a priori donc pas suspect. La population suivie est nombreuse, 54 000 agriculteurs, et une étude classique sur deux groupes, un qui a été fortement exposé au glyphosate, l'autre très peu. Résultat, le nombre de cancers, 7290 au bout de 20 ans, était à peu près le même chez ceux qui avaient été très exposés au glyphosate et chez ceux qui l'avaient peu utilisé. Mais de là à déduire que l'herbicide n'est pas cancérigène, ce serait trop simple, car il y a le problème de ces deux groupes étudiés. À une époque, aux États-Unis, l'usage du glyphosate était massif, donc ces deux populations sont-elles aussi différenciées qu'on veut bien le dire ? Ce n'est pas sûr. Il y a le problème des adjuvants utilisés avec le glyphosate. Ils peuvent être à eux seuls très toxiques. Qui est donc le vrai responsable ? Pour le Centre international de recherche sur le cancer, le glyphosate est toujours bien cancérigène. Et puis sachez, c'est un chercheur cité par Le Monde qui le dit, on peut être contaminé parfois davantage avec un équipement de protection, car certains pesticides pénètrent à l'intérieur, ils stagnent et augmentent le risque. Alors vous voyez que le débat est loin d'être terminé, c'est étude contre étude. On en attend d'ailleurs une nouvelle américaine dont les résultats sont en train d'être finalisés.
Daniel Messager, tout cela va alimenter la controverse en Europe. Prochaine étape le 27 novembre, la bataille européenne sur la prolongation de la licence de l'herbicide continue. La Commission propose 5 ans, la France ne veut pas plus de 3 ans pour continuer avec le glyphosate. La licence expire le 15 décembre. Autre problématique qui n'a pas été tranchée par le Parlement européen aujourd'hui, c'est la pêche électrique. Décriée par les écologistes, elle reste autorisée à titre expérimental. On a dit que c'était un gros morceau pour le gouvernement, la confrontation cette semaine avec les maires de France, ouverture de leur congrès aujourd'hui sur fond de réforme de la taxe d'habitation, des APL et des emplois aidés. Avant Emmanuel Macron jeudi, c'est Édouard Philippe qui a fait l'ouverture du congrès tout à l'heure, discours technique, poli, pas de recul sur les questions qui fâchent, mais un peu de séduction, ça ne mange pas de pain.
Si j'étais, non pas sur cette estrade, mais comme l'an passé, assis à votre place, peut-être ferais-je partie de ceux d'entre vous qui sont aujourd'hui inquiets. Parce que je lirai tous les jours des articles de presse ou des commentaires alarmants, parce que je me dirai qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être même, instruit par l'expérience, aurais-je un a priori de défiance à l'égard d'un Premier ministre qui, c'est fatal, serait forcément frappé d'amnésie dès sa nomination et oublierait nécessairement d'où il vient, ce à quoi il croit et ce qu'il a vécu lorsqu'il exerçait le plus noble des mandats. Mais peut-être aussi, compte tenu de l'importance des enjeux, aurais-je souhaité pouvoir échanger avec lui et entendre de sa bouche ce qu'il a à dire, pour autant qu'il le dise clairement. Ça tombe bien, mesdames et messieurs les maires, je suis venu vous parler directement et je l'espère, très clair.
Voilà, Édouard Philippe, tout en onctuosité au micro de Karine Bécard. Il n'était pas vraiment prévu au départ. Édouard Philippe, il s'est un peu invité à ce congrès des maires qui attendent désormais de pied ferme Emmanuel Macron jeudi.
Et cette inquiétude des maires, justement, Florence, on y revient. Ce sera tout à l'heure à 19h20 dans le téléphone sonne.
Et on poursuit, Fabienne, avec l'inquiétude des maires. On en parle depuis des semaines, chaque année même, quand on y pense, au moment de leur congrès, on dit qu'ils sont inquiets. Mais leurs finances sont-elles si catastrophiques ? Laurent Kramer, vous êtes penché sur les chiffres de la Banque des collectivités, et en fait, la situation n'est pas si mauvaise que ça pour les communes.
Et selon la Banque Postale, les communes, comme les régions et les départements, réussissent un véritable tour de force en réalité cette année. Car malgré une baisse continue des dotations depuis plus de 3 ans maintenant, et au prix d'efforts historiques sur leurs dépenses l'an dernier, les finances des collectivités locales ont retrouvé des couleurs en 2017. Malgré 4% de baisse de dotations de l'État, les communes réussissent dans le même temps à augmenter leurs dépenses, à mettre de l'argent de côté, diminuer leurs dettes, tout en relançant finançant dans le même temps l'investissement sur leurs propres économies. Cette quadrature du cercle a été possible pour les communes grâce à une gestion rigoureuse des dépenses, comme l'ensemble des collectivités locales, grâce à une embellie sur les recettes fiscales dans l'immobilier. Cette année, le volume et le montant des transactions immobilières, les droits de mutation, augmentent de 16% pour les communes, de quoi afficher en réalité des budgets exemplaires cette année, malgré tous les efforts demandés.
Laurent Kramer, j'ajoute que à l'Assemblée, le budget 2018 a sans surprise été adopté tout à l'heure en première lecture. Tiens, voilà qu'on reparle de l'écriture inclusive pour clore la polémique. Selon Matignon, Édouard Philippe, le Premier ministre, a décidé de trancher la question dans son gouvernement. Il demande aux ministres et à leurs collaborateurs .tris.s, c'est comme ça qu'on dit avec l'écriture inclusive, il leur demande de bannir cette écriture des textes officiels. Combat très français d'une partie des féministes. Ilana Mor-Youssef, Édouard Philippe a donc choisi l'orthodoxie, la ligne de l'Académie française.
Oui, que l'Académie ou le Premier ministre rappelle la règle, c'est bien normal, ils sont dans leur rôle, mais le débat n'est pas prêt de s'éteindre, parce que la question, au fond, est de savoir si on peut décréter l'écriture inclusive. C'est absurde, répond l'écrivain Cécile Guilbert, qui refuse absolument d'être appelée écrivaine.
Il y a une dimension totalitaire, il y a surtout une dimension complètement idéologique dans cette démarche. Les écrivains, ils ont tous les droits vis-à-vis de la langue. Ce sont eux qui créent la langue, ce sont eux qui la font évoluer. Donc si vous voulez que les écrivains consentent à la réduction de leur pouvoir et à une sorte comme ça de novlangue, qui est une sorte de police de la pensée, je vois même une forme de servitude volontaire. Je trouve ça absolument aberrant.
Alors la langue a déjà évolué ces dernières années. La féminisation des titres et des noms de métiers est devenue l'usage. Muriel Gilbert est correctrice au Monde. Elle se souvient de l'époque où on écrivait Madame le Premier ministre pour parler d'Edith Cresson. Elle trouve que l'écriture inclusive avec les points médians, c'est moche et difficile à mettre en pratique. En revanche, dans le livre qu'elle a publié l'an dernier, Au bonheur des fautes, aux éditions Vibert, elle rappelle que les règles d'accord n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui.
Jusqu'au XVIIe siècle, on pouvait accorder les hommes et les femmes sont belles. Et puis c'est un peu après la création de l'Académie française, qu'il a été décidé par des membres de l'Académie française déjà, que le masculin étant par essence plus noble que le féminin, à partir de dorénavant, lorsqu'il y aura, mais y compris plusieurs termes au féminin, mais un terme au masculin, on accordera au masculin pour cette raison de noblesse supérieure du masculin. Quand on est conscient de ça, c'est vrai que ça donne un tout petit peu envie de distribuer des claques et peut-être des accords au féminin.
Et figurez-vous, chère Florence, que je suis allée vérifier le logiciel que nous utilisons à France Inter. Il y est question de présentateur, nulle mention de l'existence de présentatrice. C'était ma contribution à la paix dans les rédactions.
Voilà, en sachant qu'on est quasiment que des femmes autour de la table, excepté Sébastien Lias, qui sera tout à l'heure pour la météo. Des temps de parcours augmentés de plus de 60%, de la pollution plus forte dans les zones d'habitation. La région Île-de-France remet à son tour son rapport sur la fermeture des voies sur berge à Paris. Les Républicains du Conseil de Paris en profitent pour demander des mesures de correction à la maire Anne Hidalgo. C'est un très gros coup, enfin, dans le milieu du vin, une opération qui prouve qu'il n'y a pas que les vignobles français que l'on s'arrache. LVMH, numéro 1 français du luxe, numéro 1 mondial du luxe, prend le contrôle d'un domaine californien, et pas n'importe lequel, Colgin Cellars, c'est ce qui se fait de mieux aux États-Unis. Les vins issus de ces parcelles se vendent des fortunes, 350 à 600 euros pièce, on les considère parmi les meilleurs du monde. Pour en parler, la crème des sommeliers, Philippe Fort Braque, interrogé par Michael Thébault.
C'est un domaine qui a été créé en 92, l'année où j'ai gagné le concours du meilleur sommelier du monde, où il y avait un peu une sorte de nouvelle génération de vignerons californiens qui ont créé un certain nombre de domaines qui sont devenus cultes assez rapidement. Ils ont pris le problème un peu différemment de la viticulture traditionnelle de la Californie, c'est-à-dire plutôt que de faire des grands domaines, des grosses productions, des vins un peu puissants et des assemblages un peu emblématiques, ils se sont dit on va travailler plutôt à la bourguignonne, en travaillant sur des terroirs, en faisant des micro-vinifications, en travaillant plus sur l'élégance que l'extraction et la puissance. C'est différent de ce que l'on fait chez nous, mais force est de constater que ce sont des vins qui, même s'ils ont un peu plus de soleil, même s'ils ont un peu plus de générosité que les nôtres, sont des vins qui gardent quand même de l'élégance, une certaine suavité et surtout du plaisir dans la dégustation. Ce sont des vins qui se situent entre 250 et 500 euros la bouteille. Donc on se situe dans les grands crus, effectivement, de Bordeaux, de Bourgogne, de chez nous.
Voilà, et ce rachat pour la petite histoire avec de gros chèques, eh bien c'est un peu la réponse de LVMH à François Pinault, la famille Pinault et sa holding Artemis, qui annonçait pas plus tard que la semaine dernière avoir signé un accord pour acquérir un des joyaux viticoles des Côtes de Nuit en Bourgogne, le Clos de Tarbes. Ça aussi, c'est une grosse bataille du vin avec des bouteilles qui valent extrêmement cher, Fabienne.
Mais écoutez, Florence, avant de penser à l'apéro, vous revenez dans Un jour dans le monde.
Exactement. On va pas boire de vin,
non,
Fabienne, parce
tout.
Que je veux parler de la charia au cœur de l'Europe, des mariages blancs entre gays et lesbiennes en Chine et de soldats australiens qui continueront à reposer en paix à Bulcourt, dans le nord de la France.
Et donc à tout à l'heure, on parle aussi démographie dans Un jour dans le monde. Nous sommes en Palestine, en Italie, en Russie et aussi sur le Mont Blanc, tiens, ce soir. Deuxième heure, je vous le remets en tête, le téléphone sonne et la colère des maires. On en parlait à l'instant dans le journal avec Florence. À l'ouverture de ce 100e congrès des maires de France, 13 milliards de coupes dans les dotations, la taxe d'habitation qui disparaît pour beaucoup. Est-ce que ça change des choses pour nous, les habitants? Est-ce que c'est inquiétant? Qu'est-ce qu'on risque de perdre? Est-ce que les communes aussi perdent leur autonomie financière? 01 45 24 7000 et franceinter.fr. L'œil sur le ciel.
La météo avec Switch Assure, comparateur d'assurance emprunteur 100% en ligne. Comparer, switcher, c'est gagné. Rendez-vous sur switchassure.fr.
Sébastien Léas, bravo, le soleil revient demain.
Oui, dès le lever du jour même, le ciel sera quasiment tout bleu, de la Vendée à l'Alsace jusqu'aux Alpes, au Massif central et aux Pyrénées. Quelques brouillards locaux retarderont un peu le soleil entre le Poitou, le Berry et le Val-de-Saône, voire dans la vallée de la Garonne. Les grisailles seront plus nombreuses sur un large quart nord-ouest, mais là aussi, le soleil finira par s'imposer. Il faudra quand même être un peu patient par endroits, notamment entre les frontières du Nord et le bassin parisien.
Et sinon, le ciel est nuageux autour de la Méditerranée, notamment.
Oui, les Pyrénées-Orientales auront une journée plutôt agréable, mais poussées par le vent marin, les nuages vont s'accumuler sur le Languedoc, devenant même imposants l'après-midi, apportant quelques gouttes sur les Cévennes. Le temps sera plus changeant. En Provence et en Corse, les nuages seront prédominants, mais on pourra quand même profiter de quelques éclaircies. Et puis à noter aussi l'arrivée d'une perturbation sur l'ouest de la Bretagne demain après-midi, qui donnera des passages pluvieux sur le Finistère avant la tombée de la nuit et un vent de plus en plus fort. Et puis les températures de demain seront encore au-dessus des valeurs de saison. Prévoyez 11 à 17 degrés sur la moitié nord, avec 14 degrés pour Lille et pour Orléans, et 13 à 21 degrés plus au sud, avec 18 degrés pour Bordeaux, Marseille et pour Bastia.
Sébastien Léas, merci, à tout à l'heure.